Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Hubert Krivine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien. Vous avez enseigné et cherché au laboratoire de Paris Sud et de Paris 6. Vous êtes aussi historien des sciences.
Amateur, disons. Hein.
Amateur. Vous étiez venu ici à l'antenne de l'Union rationaliste en juillet 2011 pour parler d'un de vos précédents ouvrages intitulé « La Terre des mythes au savoir », consacré à l'histoire de la datation de la Terre. Est déjà publié aux éditions Cassini. Et si je vous ai invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est pour parler de votre nouvel opuscule, petit livre, intitulé « Petit traité de hasardologie ». Et je vais revenir, nous allons revenir ensemble sur ce titre, mais je signale d'emblée la très grande actualité de la question du hasard à l'Union rationaliste, puisque nous venons de publier un très remarquable numéro de Raison présente, le numéro 198, consacré à la notion de hasard et coordonné par Michel Leduc et Michel Morange. Donc, cette question du hasard nous importe en rationaliste. Alors peut-être ma première question est la suivante. Pourquoi avoir choisi pour votre promenade scientifique et humoristique dans la notion de hasard ce titre pompeux et peut-être ironique ?
Pas peut-être, à coup sûr, ironique. Bon, certaines personnes peut-être confondront le petit traité de hasardologie avec un petit traité de astrologie. Bon, tant mieux, ça fera augmenter les ventes, mais c'est une escroquerie, hein, clairement, et je le dis dans l'introduction, la hasardologie a des fondements aussi sérieux que l'astrologie, c'est-à-dire aucun. Bon. Voilà, peut-être...
Prise de position rationaliste, on ne peut plus clair.
Oui,
alors, ça n'est pas un traité.
Non.
Et il n'y a pas d'hasardologie.
Non plus. Non.
Bon, alors.
Ceci n'est pas une pipe.
Voilà. En fait, c'est un manifeste magrittien.
Peut-être. Bon, peut-être une des raisons qui ont présidé à l'écriture de ce livre, ce petit livre, c'est l'enseignement, comme souvent d'ailleurs. Quand j'enseignais à Cachan, je faisais un cours de probabilité, et au début du cours, je donnais à mes élèves une citation de Élisabeth Tessier. Je ne sais pas si les auditeurs se souviennent de qui est Élisabeth Tessier.
Je pense que les auditeurs de France Culture s'en souviennent, bien qu'ils ne soient pas tous... Bon, féru d'astrologie.
Bon, enfin, c'est l'astrologue la plus titrée de France, puisqu'elle est docteur de l'université, et probablement la plus connue. Bon, elle, dans son livre, elle explique en gros ceci. La preuve que l'astrologie a un fondement, c'est que si je faisais mes prévisions au hasard, comme le soutiennent mes ennemis, dans un cas sur deux, j'aurais raison, évidemment, dans un cas sur deux, j'aurais tort. Or, l'expérience prouve que j'ai raison dans 80% des cas. Bon. J'explique ça à mes étudiants et je leur dis « Quelle est votre critique de ça ?» Bon, comme ils sentaient confusément que l'astrologie, c'était pas ma tasse de thé, ils disaient « Ouais, mais il faut voir, quand elle dit 80%, faudrait vérifier que ça... » C'est très mauvais comme réponse. Elle a raison. Elle a bien raison dans 80% des cas. Moi, j'ai regardé un peu ses prévisions, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est même plus que 80% des cas. Où est l'escroquerie ? L'escroquerie intellectuelle, qui se doublera ensuite d'une escroquerie tout court. Mais l'escroquerie intellectuelle, c'est de faire croire aux gens que quand un événement peut ou non se produire, il y a une chance sur deux pour qu'il se produise. C'est absurde. Vous prenez le jeu de dés. Votre probabilité de tirer un as ou de pas le tirer, c'est pas un demi, c'est un sixième. Quand vous prenez l'avion, de deux choses l'une, ou bien il y aura un accident, ou bien il n'y en aura pas. Est-ce qu'il y a une chance sur deux pour qu'il y ait un accident, etc., etc. Donc, mais j'étais étonné que des étudiants de Cachan, qui sont quand même bons, n'étaient pas capables de tenir ce genre de raisonnement.
Bon. Alors, première raison du titre, comme l'astrologie, vous vous moquez de l'hasardologie. Et puis un petit traité. plutôt qu'une déambulation.
Oui, c'est une marche au hasard, un peu dans le domaine des probabilités. J'ai pas voulu faire un cours sur les probas. Il y en a d'excellents qui existent et ça n'a pas un gros intérêt.
Donc, vous avez choisi de faire un ouvrage. Moi, je n'aime pas le terme de vulgarisation, mais je pourrais dire aussi accessible qu'amusant sur la question du hasard.
Oui, j'ai un maître pour ça qui est Coluche, qui m'a énormément inspiré. Que le jeudi, par exemple, quand on est malade, il faut surtout pas aller à l'hôpital, parce que la probabilité de mourir dans un lit d'hôpital est beaucoup plus grande qu'à la maison. Bon, voilà. Coluche dit, la plupart les deux tiers des accidents de la route sont dus à des conducteurs sobres, un tiers à des conducteurs alcoolisés. Donc, dit Coluche, il faut mettre en prison les deux tiers des conducteurs sobres, etc., etc. C'est excellent tout ça, et ça fait réfléchir un petit peu.
Alors, ça fait réfléchir à quelque chose que vous dénoncez et que vous expliquez dans votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez l'expliciter pour les auditeurs?
Je donnerai un dernier exemple encore que je trouve gratiné, qui n'est pas du Coluche, mais qui vient d'économistes tout à fait sérieux, qui pour répondre aux syndicalistes un peu naïfs qui disent que si on faisait travailler un peu moins les vieux, les jeunes auraient de la place sur le marché du travail, notre économiste très sérieux dit mais pas du tout, les chiffres prouvent que dans les pays où les seniors travaillent le plus, c'est là également où il y a le plus d'emplois pour les jeunes. Mmh. C'est extraordinaire ça, parce qu'il n'y a aucun rapport de cause à effet, évidemment. Simplement que c'est des pays dans lesquels il y a une demande de travail très forte, et puis c'est tout. Si vous voulez, c'est la blague, c'est la dernière que je raconterai, parce que sinon... il est démontré que plus les élèves sont bons en maths, plus la taille de leurs pieds est grande. Il n'y a aucun doute là-dessus, les courbes sont absolument nettes. Pourquoi ? Ben c'est évident, plus la taille des pieds est grande, plus ils sont vieux. Et plus ils sont vieux, meilleurs ils sont en maths. Bon, notre économiste fait exactement ce genre de blague.
Alors, ce que j'aimerais que vous parveniez à expliciter pour les auditeurs de France Culture, c'est les biais que vous dénoncez dans votre ouvrage à propos d'une mauvaise utilisation des probabilités.
Il y en a pas mal. Je vais vous donner un exemple. Si vous supposez que la radicalité islamique est une maladie, c'est une maladie rare. Admettons, pour fixer les idées très vite, qu'il y ait en France 5000 terroristes, c'est-à-dire une probabilité de 1 dix millième pour un individu d'être terroriste. Et supposez que vous avez un test de radicalité, comme on essaye de faire maintenant, qui a une probabilité de succès de 99%. Bon. Si vous appliquez ce test-là, il va rester 1% de gens emprisonnés sur les 50 millions d'habitants. C'est-à-dire que 500 000 personnes vont être emprisonnées. Donc il faut bien comprendre que quand vous avez une maladie rare, là je dis en plaisantant, je ne crois pas que le radicalisme islamique soit une maladie, mais enfin, si vous prenez une maladie rare, bien entendu non, mais je veux dire, la démarche statistique est la même. Si vous prenez une maladie rare, il faut que la fiabilité de votre test soit un ordre de grandeur au-dessus de la probabilité de la maladie. Sinon, le test ne démontre absolument rien. Le test donne simplement des résultats sur lui-même. Et donc ça, c'est une leçon, disons, très générale.
Au fond, dans un premier moment, vous essayez dans votre ouvrage de stigmatiser, de réfléchir à la mauvaise utilisation des probabilités. Et vous constatez que, comme en astrologie, ce que vous venez d'expliquer avec Elisabeth Tessier, mais aussi en économie, les biais utilisés dans le calcul des probabilités sont aussi nombreux que dangereux.
C'est pas forcément les biais dans le calcul des probabilités, c'est souvent la confusion entre causalité et corrélation. Il y a évidemment une corrélation très forte entre la taille des pieds des élèves et leur niveau en maths. La corrélation est indiscutable. Mais où est la causalité ? Très souvent, c'est un troisième élément qui explique la causalité. Entre parenthèses, si vous me le permettez, il y a toute une philosophie maintenant des big data qui consiste à dire qu'avec l'immense base de données numériques qu'on a, on peut éviter les démonstrations, à l'ancienne en quelque sorte, et que l'accumulation des chiffres remplace la démonstration. Ça, c'est une idée complètement fausse, complètement fausse. C'est vrai que l'abondance de chiffres peut être très intéressante pour ouvrir des pistes ou des choses comme ça, mais ça n'emplace pas une démonstration. Einstein n'a pas trouvé la théorie de la relativité générale ou restreinte sur la base d'une masse de données, pas du tout. C'est exactement au contraire. Il l'a fait sur la base de considérations purement théoriques. Ensuite, ça permettra d'ailleurs d'accéder à une masse de données, mais c'est pas dans l'autre sens que ça s'est fait.
Il me semble que votre ouvrage a une autre portée qui n'est pas dénonciatrice, c'est de faire un point ou un bilan sur où nous en sommes aujourd'hui en physique et en biologie dans notre utilisation du hasard. Est-ce que vous pourriez éclairer les auditeurs sur ce point ?
Bon, je suis très content que vous ne m'ayez pas posé la question. Quelle est votre définition du hasard ? Parce que j'aurais été très embêté. J'aurais pu paraphraser ce tube de Saint-Augustin quand on lui posait la question sur le temps. Il disait, quand on me demande pas ce que c'est, je le sais. Quand on me le demande, je ne le sais plus. Sur le hasard, je vous dirais exactement la même chose. Si on demande à des gens quelconques qu'est-ce que c'est que le hasard, ils savent pas le définir, mais ils savent l'employer. En gros, on peut tirer de la place, vraiment en gros, l'idée que le hasard serait la mesure de notre ignorance. Bon, c'est une position très sympathique qui a permis des avances, etc., etc. Mais pour Laplace, les populations primitives utilisaient le hasard un peu comme mesure de leur ignorance. Et, dit Laplace, la saine philosophie, le mot est charmant, la saine philosophie fera reculer les limites du hasard. En fait, c'est pas ça qu'on a vu. Si vous voulez. On a bien vu au XIXe siècle la science se construire contre le hasard, mais en même temps, à la fin du XIXe siècle, elle a commencé à l'utiliser. En fait, le hasard est un élément constitutif du développement des sciences modernes. Prenez un gaz. Les molécules vont dans tous les sens. Il y en a des milliards qui se choquent des milliards de fois par seconde. Ce serait théoriquement possible d'établir l'équation de chacune des molécules avec les lois de la mécanique, mais c'est évidemment hors d'atteinte humaine. Bon. Si vous supposez maintenant que la vitesse et la position des molécules est distribuée absolument au hasard, sans aucune loi, avec la seule contrainte qu'il faut que les molécules soient dans un volume donné et isolées de l'extérieur. Donc si vous prenez ces deux seules contraintes-là, vous trouvez toutes les lois de la thermodynamique. Si les auditeurs se souviennent, les PV égale constante de Mariotte, etc., etc., et bien d'autres choses. Donc, Poincaré a une très jolie phrase. Il dit, si par malheur, j'essayais de faire le calcul exact, je m'en tirerais jamais, mais Dieu soit loué, enfin c'est moi qui dis Dieu soit loué, je ne fais pas ça, et je considère que j'ignore. Je considère que la distribution est absolument aléatoire. Sur cette base-là, toute la thermodynamique est construite. Quelquefois, notamment en psychanalyse, on prend un air profond pour dire « c'est pas par hasard si » et on construit quelque chose. L'affirmation « c'est pas par hasard si » est une affirmation souvent exacte en un certain sens, mais elle n'est pas forcément constructive. La mécanique statistique et bien d'autres choses se construisent précisément avec l'affirmation « c'est par hasard si ». Et si vous prenez maintenant la biologie, alors, si vous voulez, il y aurait une définition du hasard donnée par Cournot qui plaît souvent aux biologistes. Moi, j'ai quelques doutes, mais bon, ça consiste à dire le hasard, c'est la rencontre de deux chaînes de causalité indépendantes. Mais il dit la rencontre fortuite de deux chaînes de causalité indépendantes. Bon, si on a le temps, je vous dirai pourquoi je ne crois pas trop à ça, mais c'est très utilisé par les biologistes. Et l'idée, si vous voulez, c'est que vous avez, pour expliquer le darwinisme, d'une part le hasard des patrimoines génétiques, qui sont tous un peu différents les uns des autres, confronté à un autre hasard qui est celui des aléas, du climat, d'épidémies, de choses comme ça. Et la rencontre de ces deux fait que les plus aptes à survivre vont pouvoir se développer. Donc si vous voulez, pour les naturalistes, la notion de hasard est tout à fait constitutive de leur science. Alors évidemment, si on creuse, on peut toujours creuser et se dire pourquoi il y a cette irrégularité du patrimoine génétique. Peut-être c'est parce qu'un rayon cosmique a tapé dans un brin d'ADN, c'est possible. Mais ça, le biologiste, ça l'intéresse pas. Il préfère dire, à juste titre, c'est par hasard. Mais maintenant, celui qui fait des choses plus moléculaires va dire, non, c'est pas par hasard pour moi. Il y a une explication à ça. Le hasard, c'est une notion qui dépend fortement et du temps et de l'espace.
Oui, et de l'échelle.
Exactement, des échelles de temps et d'espace dans lesquelles on se place. Et il me semble, c'est ce que j'essaie d'expliquer à la fin de mon livre, qu'on a plutôt intérêt à définir un hasard effectif ou un hasard local. Ça, ça a un sens.
Qui serait précisément relatif à l'échelle
exactement
des phénomènes
qu'on étudie. Exactement.
Puisque au niveau, par exemple, microscopique de la matière, on parle d'un hasard quantique, par
alors
exemple.
Alors ça, alors là, vous touchez quelque chose de beaucoup plus profond, si vous voulez. Je dirais que...
C'est vous le physicien.
Oui, je sais bien, mais si vous voulez, il y a deux domaines de la physique dans lesquels le hasard joue un rôle un peu particulier. Il y a d'une part celui beaucoup plus simple à comprendre, qui est celui qu'on appelle le chaos déterministe. Qu'est-ce que c'est le chaos déterministe ? C'est le fait que dans certains cas, un phénomène est gouverné par une loi qu'on connaît parfaitement, qui est même d'une simplicité biblique, et malgré ça, et je dirais en fait à cause de ça, on ne peut pas prévoir ces développements. C'est-à-dire, on peut évidemment les prévoir à très court terme, et puis sinon la loi n'aurait pas de sens. Il y a une loi qui permet de prévoir à court terme, mais pas à plus long terme. Et ça, on peut montrer qu'il n'y a rien à faire. On peut améliorer un peu l'horizon, mais il n'y a rien à faire pour faire mieux. La météorologie, par exemple, fait typiquement partie de ce genre de phénomène chaotique. Bon, donc, si vous voulez, déjà, le hasard là, c'est quelque chose inhérent, en quelque sorte, au chaos déterministe, en un certain sens. Par contre, le hasard intervient de façon beaucoup plus violente en mécanique quantique. Mmh. Bon, là, il n'y a pas de doute. Il est montré que si on connaissait parfaitement la position d'un électron, par exemple, on doit renoncer à connaître sa vitesse, et réciproquement. Si on connaît sa vitesse, on doit renoncer à connaître sa position. Mais c'est très profond, ça. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire. C'est pas la mesure de notre ignorance, si vous voulez. Bon, donc, là encore, de ce point de vue-là, la science moderne se nourrit du chaos. Il se nourrit du hasard.
Pardon. Du hasard. Bon, c'est sur ces derniers mots que nous allons clore cette émission. Hubert Krivine, je vous remercie. Je renvoie donc à l'ouvrage d'Hubert Krivine, Le petit traité de hasardologie, publié chez Cassini. Je renvoie également au numéro de Raison Présente, coordonné par Michel Leduc et Michel Morange, que vous pouvez commander sur le site de l'Union Rationaliste. Et j'invite les auditeurs de France Culture qui le voudraient à nous rejoindre au colloque de l'Union Rationaliste le samedi 19 novembre, colloque qui portera sur les migrations internationales et qui aura lieu au lycée Henri IV. Je remercie Philippe Palares et Dany Journeau qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.